L'éducation relationnelle.
Chiche.
Prévention des violences, gestion des conflits et développement des pratiques coopératives.
Parce qu'il n'y a pas que la compétition dans la vie.
Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Larzac et de CFM, ainsi qu'à celles et ceux qui nous écoutent depuis le site internet d'Envie en Jeu. Dans cette émission de rentrée, la première de la saison 3 d'Éducation relationnelle chiche, Chloé vous invite à la suivre dans l'exploration d'un univers nouveau pour vous peut-être, nouveau pour moi en tout cas. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission d'octobre Éducation relationnelle chiche. Vous êtes sur Radio Larzac et ce mois-ci, nous allons vous parler de la pédagogie LOGSI. Nous présenterons également les jeux coopératifs de la société Heliobile qui sont des jeux solaires. Et puis, Victorine nous présentera la maison d'édition spécialisée en éducation qui se nomme L'Instant Présent. Alors, avant de laisser la parole à une formatrice à l'association Picler LOGSI France, qui s'appelle Véronique Stark, je vous propose de résumer rapidement qui est Amy Picler, fondatrice donc de la pédagogie LOGSI. Amy Picler est donc une pédiatre hongroise, elle est diplômée de la faculté de médecine de Vienne, et elle part s'installer à Budapest, où, en 1947, on lui propose de prendre la direction de la pouponnière LOGSI. Cette pouponnière avait été créée pour les orphelins de la guerre, âgés de quelques semaines à 3 ans. Ces enfants vivaient donc 24 heures sur 24, privés de leurs parents, momentanément ou définitivement. Amy Picler a mis en place une approche éducative et médicale innovante, en posant comme principe la libre activité de l'enfant, son bien-être corporel, la qualité du soin et de la relation privilégiée avec l'adulte qui s'en occupe. Dans les instituts Picler-LOGSI, il y a des adultes référents pour chaque enfant. Cette méthode, Amy Picler l'avait tout d'abord expérimentée chez elle, à son domicile, dès les années 20. Elle l'a donc tout d'abord appliquée dans son cadre familial pour élever son propre enfant, ainsi que dans son cabinet de pédiatrie. À la fin des années 40, elle l'étend à l'Institut LOGSI, dont elle devient directrice. Cette théorie, novatrice à ses débuts, est pour partie largement intégrée aujourd'hui dans les pratiques éducatives actuelles en France, et ce notamment sous l'impulsion de Françoise Dolto. Aujourd'hui, cette approche continue à faire l'objet de recherches complémentaires. Il existe notamment des formations universitaires de spécialisation à la méthode LOGSI. On peut dire donc que, et d'ailleurs très vite, dès les années 40 ou 50, cette pédagogie a été une formidable réussite et a remporté beaucoup de succès. Aujourd'hui encore, elle jouit d'un intérêt grandissant. Et un certain nombre de pratiques mises en place dans cet institut sont aujourd'hui mondialement reconnues et ont été adoptées par d'autres milieux d'accueil. Le principe fondamental pour Amy Picler, c'est d'envisager une conception novatrice du bébé, qu'elle considère comme un être capable d'exprimer ses besoins, de se faire comprendre et d'interagir avec son entourage. Si, évidemment, cet enfant rencontre des adultes prêts à l'écouter et à prêter de l'attention à ses manifestations. Amy Pickler pensait que le bébé était un puissant acteur de son propre développement et qu'il pouvait réellement devenir un partenaire actif dans les soins qui lui étaient prodigués par les adultes de son entourage.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leurs chaînes, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Merci, qu'on leur dise, on leur crie, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Cela semble déjà, dans un premier temps, difficile à croire pour la plupart des personnes. Au premier abord, l'idée que cet enfant puisse vraiment, dès le plus jeune âge, être acteur de ses apprentissages. Et en effet, on remarque qu'il est courant chez nous, dans nos sociétés, d'asseoir très tôt les enfants en les calant dans des coussins, de les mettre sur le ventre pour qu'ils se musclent, dans des transats pour qu'ils ne s'ennuient pas, de les faire marcher en les tenant par les mains, de les occuper à tout prix, sans s'apercevoir de la richesse de leurs activités. La pression de l'entourage peut inciter aussi à précipiter des acquisitions, sans tenir compte du rythme des enfants. Sans parler évidemment de la fierté d'avoir un enfant précoce. Des enfants qui sont donc parfois surstimulés. Prendre conscience, à l'aide de la méthode Pickler-Loxie, qu'il ne faut pas mettre un enfant dans une position qu'il n'a pas encore acquise par lui-même, est la première étape de l'apprentissage. Ensuite, les stagiaires se rendent compte des capacités infinies des jeunes enfants sur le plan moteur, pour peu que les adultes aient confiance en leurs possibilités. Et qu'ils accordent une très grande valeur à leur activité libre. Et lorsque l'importance de la motricité libre et de l'activité autonome est comprise, les portes s'ouvrent dans les esprits, des évidences surgissent, une réflexion commence, des conceptions évoluent. C'est un moment touchant pour les formatrices de voir s'opérer cette transformation. Et c'est pourquoi c'est Véronique Stark qui va maintenant nous parler de cette approche piclerienne. Véronique Stark étant elle-même formatrice à l'association Pickler-Loxie France. Bonjour Véronique.
Bonjour Chloé.
Donc tu as un stand à Primevert et tu représentes l'association Pickler-Loxie.
Oui, l'association Pickler-Loxie France, voilà, qui est du coup qui a son siège à Paris, mais qui a plusieurs antennes en région, qui est une association de formation et de réflexion qui transmet les idées d'Émy Picler, qui était une pédiatre hongroise du siècle dernier, qui a fait tout un travail de recherche et qui a mis en évidence la motricité libre chez le jeune enfant en particulier. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas nécessaire d'enseigner aux enfants, de leur apprendre à s'asseoir ou à marcher. Ça fait partie de leur programme génétique, c'est inné. Et que c'est plutôt, du coup, tout à fait important et intéressant de les laisser faire leurs expériences par eux-mêmes. Du coup, on leur propose d'être allongés à plat d'eau, hein, sur un sol suffisamment dur pour qu'ils puissent sentir leurs appuis. Et ensuite, à leur rythme, ils vont se développer. Alors, avec l'idée que tous les enfants élevés comme ça vont passer par les mêmes stades de développement, mais à des rythmes individuels extrêmement différents. Et que, voilà, ça a de la valeur dans la mesure où les enfants vont mieux se connaître dans leur corps, dans leurs équilibres. Ils vont choisir des positions, des postures dans lesquelles ils sont confortables pour jouer, par exemple. Et que comme à cette période de la vie, c'est aussi toute la construction de l'identité, en tout cas les débuts qui s'installent, et que le corps est très important, ça a aussi comme valeur d'avoir confiance en soi, hein, dans ses propres appuis, de ne pas être dépendant en permanence de l'adulte, et de faire ses expériences en fonction de ses centres d'intérêt aussi. Voilà rapidement comment on pourrait présenter un petit peu cette approche-là.
Ok. Donc de respecter un peu le développement psychomoteur de l'enfant, le rythme de chaque enfant. Donc je comprends que le fait de ne pas être contredit dans ses besoins, en fait, contribue à la confiance en soi. Est-ce qu'il y a des choses que toi, par exemple, tu as pu constater ?
Alors oui, c'est-à-dire que c'est respecter le rythme individuel de chacun qui est très très différent d'un enfant à l'autre. Ça, c'est assez méconnu. Et pour autant, un enfant qui va s'asseoir un peu tardivement seul ou qui va marcher un peu plus tard par rapport à la moyenne, il aura fait plein d'autres choses. C'est-à-dire que c'est ni mieux ni moins bien. C'est vraiment extrêmement individuel en fonction de la maturation neurophysiologique, la maturation psychologique aussi. Il y a plein d'éléments qui rentre en ligne de compte, donc ça c'est vraiment très important. Et la question de la confiance en soi, oui, on observe des enfants qui font l'expérience d'être contents de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que bien sûr après, l'adulte reste très important, et si l'adulte est content, l'enfant est encore plus content, mais c'est avant tout pour eux, hein, dans quelque chose, c'est vraiment, voilà, c'est moi qui l'ai fait, où ils sont pas en situation d'échec, hein, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'eux un résultat, qu'ils y arrivent, là ils font ce qu'ils ont à faire.
Et quand tu dis le corps est très important, est-ce que tu veux expliquer un petit peu plus ce que tu entends par là ?
C'est-à-dire qu'au début de la vie, le bébé il va se construire aussi en fonction des sensations, de ses ressentis corporels. Et du coup, plus il va se connaître, plus il va se sentir à l'aise et du coup en confiance avec ce qu'il ressent. Hein, ce qu'il ressent, ça a de la valeur. Et puis également, donc il y a la question de la motricité libre, mais il y a aussi tous les objets qu'on va proposer pour l'activité ludique de l'enfant qui est très importante, qui vont être des objets simples. Et autour de ces mouvements, la façon dont il va jouer, se découvrir, va vraiment lui permettre de faire des liens et de construire sa pensée et de devenir intelligent. Hein, c'est-à-dire, alors là, on fait des liens assez facilement avec les pédagogies nouvelles, hein, où c'est aussi par l'expérience qu'il va y avoir l'intégration, et que chez le tout petit, ça passe absolument par le corps.
Concernant la créatrice donc de cette méthode.
Alors Émy Picler, alors c'est vrai qu'on préfère parler d'approche ou presque de philosophie que de méthode, parce que voilà, on est très prudent justement sur la façon dont chacun va s'approprier ces idées-là, et qu'on a aussi l'idée que c'est un vrai regard sur l'autre. Voilà, c'est pour ça que moi en tout cas j'aime bien aussi parler de philosophie. Donc Émy Picler, elle est du siècle dernier, donc elle était pédiatre, elle a fait ses études à Vienne, voilà, au moment de la naissance de la psychanalyse, il y avait aussi les pédagogies nouvelles, l'art nouveau, il y avait tout un mouvement très dynamisant à ce moment-là, et elle a fait, elle a observé, elle a fait un stage en Dans un service de pédiatrie en traumatologie, elle s'est rendue compte que les enfants qui étaient élevés de façon très proximale, très protégés par leurs parents, se faisaient des traumatismes plus importants que des enfants qui étaient élevés de façon plus libre, voire parfois laissés à eux-mêmes et qui se faisaient des fractures ou des blessures beaucoup moins importantes. Avec l'idée qu'effectivement, c'était vraiment important cette expérience-là. Et ensuite, elle l'a mise en œuvre dans le cadre d'une pouponnière dont elle a pris la direction dans l'après-guerre, où elle a proposé effectivement cette motricité libre tant dans les temps d'activité que dans les temps de soins, hein, c'est-à-dire qu'au moment d'un change, si un bébé veut se retourner sur le ventre, et bien c'est quelque chose qui était possible et favorisé. Et aussi également donc dans cette pouponnière qui est toujours hein, à Budapest rue Logzi, c'est pour ça Pikler Logzi, l'institut Pikler Logzi existe toujours, et elle a aussi beaucoup réfléchi sur la continuité des liens entre enfants et adultes pour prévenir les carences affectives des enfants élevés en collectivité. Et c'est des choses sur lesquelles on s'appuie toujours aujourd'hui dans notre travail de formation dans les crèches, dans les pouponnières aujourd'hui en France.
Et donc sur ces liens enfants-adultes, du coup, quels sont-ils? Et puis peut-être au niveau, on va dire, plus institutionnel, quel lieu existe-t-il? Est-ce qu'il en existe beaucoup
Alors les liens adultes-enfants, c'est vrai qu'il y a eu toute une réflexion. Alors à cette époque-là, c'était vraiment, il y avait beaucoup de problèmes d'hygiène, que les pouponnières réfléchissaient beaucoup à la question de l'hygiène, aux soins, mais très à distance de la relation. Donc elle, ce qu'elle a mis en œuvre, c'était que c'était absolument nécessaire qu'un bébé puisse suffisamment rencontrer un adulte, créer une relation d'attachement. Hein, donc c'est aussi dans la continuité tous les travaux sur l'attachement de Bowlby en Angleterre. Et du coup, il y avait vraiment comment l'enfant allait pouvoir rencontrer quelques adultes, et pas énormément, pour pouvoir vraiment sentir qu'il comptait pour quelqu'un et qu'il pouvait aussi compter sur quelqu'un. Hein, donc il y avait une adulte qu'on appelle une adulte privilégiée, une adulte de référence qui avait la responsabilité de l'enfant sur son accueil global. Bien sûr, elle s'en occupait pas tout le temps parce qu'il y avait des relais, mais que voilà, il y avait suffisamment de relais qui étaient passés pour que chaque adulte, donc elles étaient le plus petit nombre possible et qui s'occupe de l'enfant, puisse avoir les éléments nécessaires pour bien connaître l'enfant. Hein, c'est-à-dire bien connaître l'enfant, c'est vraiment ce qui était privilégié, c'était les temps de soins, hein, des temps de repas individuels, des temps de bain, pour que vraiment, parce qu'en collectivité, c'est pas si facile de rencontrer individuellement un jeune enfant, or les jeunes enfants en ont besoin. Donc il y avait toute une organisation institutionnelle pour que ces rencontres soient extrêmement nourrissantes affectivement pour l'enfant, avec bien entendu une différence entre les liens parentaux et les liens professionnels, mais quand même avec suffisamment de temps de rencontre nourrissant psychiquement pour le petit enfant, qui a absolument besoin de l'adulte pour subvenir à ses besoins, mais non seulement ses besoins vitaux de manger, d'être changé, mais son besoin de relation, hein, absolument fondamental pour qu'il puisse vivre.
Donc un adulte référent qui s'occupe d'un petit groupe d'enfants, même si c'est pas de manière exclusive. Et donc il existe comme des crèches, c'est ça, où les parents peuvent laisser leurs enfants?
Voilà, il y a des crèches qui s'inspirent beaucoup de ces idées-là. Donc effectivement, c'est un adulte qui est référent de plusieurs enfants d'un groupe, et il y a plusieurs adultes qui sont sur le même groupe. Alors pas forcément tous ensemble, mais en tout cas il y a un relais, et effectivement c'est pas exclusif, parce que d'une part il y a d'autres adultes qui vont être amenés à s'occuper du même enfant, et puis ce qui est très important, c'est qu'il y a toute l'équipe autour, hein, d'encadrant, les gens qui sont là, psychologues, médecins, puéricultrices, pour partager, hein, l'accueil de l'enfant. Et donc actuellement il y a des crèches et des pouponnières qui s'inspirent tout à fait directement de ces idées-là en France aujourd'hui, dans toutes les régions. Après, chaque structure, et ça c'est très important, va en fonction de son contexte à elle, remettre en œuvre. C'est pour ça que la question de la méthode, on l'a discuté un tout petit peu, c'est que c'est vraiment important que chaque équipe travaille et réfléchisse à qu'est-ce qui est possible ici et maintenant, avec ces enfants-là, avec ces parents-là, dans ce contexte-là, mais avec l'idée des fondamentaux qui sont, c'est absolument nécessaire que l'enfant puisse, même s'il rentre le soir chez lui, mais suffisamment s'appuyer sur un ou quelques adultes durant ce temps de séparation avec les parents, temps de séparation qui arrive de façon prématurée par rapport au niveau, enfin là où en sont les enfants dans leur développement.
Quand tout est noir, quand tout est noir sur blanc, quand plus d'espoir, quand la vie se défend, et quand j'y pense à tout ce temps perdu, à mon enfance, au chagrin défendu, quand je devine tout ce que j'ai laissé, mes racines qui n'ont pas repoussé, et ces visages pas assez contemplés, avant l'orage se sont envolés. Tu es la terre sous mes pas, tu es l'écorce sous mes doigts, et la rivière où je me noie, tu es ma joie. Quand tout est peine, quand il n'y a plus rien, ni Dieu, ni veine, ni famille, ni rien, quand il vente aux quatre coins de moi une épouvante qui vient d'où et pourquoi. Quand tout me blesse et quand je sens en moi cette faiblesse qui détruit toute joie. Quand tout est fou, quand je me sens trahi, quand on me joue et quand on m'oublie. Tu es la terre sur mes pas, tu es la mer contre mes bras, tu es le vent, tu es sa voix, tu es ma joie. Quand tout s'éclaire, quand tout va mieux que bien, et quand j'espère qu'il n'arrivera rien, quand le soleil semble de mes parents, et qu'on réveille ses genoux. Le vent, quand il éclate aux quatre vents de moi, une écarlate, irrépressible joie, et quand la mer mélange ses couleurs, et ses bleus, ses verts, pour m'habiller le cœur, tu es la terre sous mes pas, tu es le sable entre mes doigts. Si tu veux qu'à mon tour je sois, oh oui, ta joie, reste ma joie.
Et donc l'association dont tu fais partie, en fait, elle fédère en fait les lieux qui s'inspirent de cette philosophie. Quel est votre rôle en fait?
Alors, avant tout, on est centre de formation, hein, donc on anime des formations soit sur nos sites à Paris ou en région, hein, il y en a donc à Lyon, où les gens viennent voilà en stage, soit on va dans les structures, effectivement, dans les crèches, les pouponnières, les relais d'assistantes maternelles, et actuellement, on est en train de... parce que la pouponnière à Budapest a fermé, ils ont ouvert des sections de crèches et des groupes d'accueil enfants-parents, et on est en train en France, effectivement, de faire tout un travail de référencement pour fédérer justement davantage les structures qui s'inspirent de ces idées-là pour qu'il y ait à la fois des formateurs qui puissent y aller pour soutenir ce travail qui est exigeant et puis en même temps que ça puisse aussi être des lieux d'observation pour des gens qui souhaiteraient se former à cette approche piclérienne.
D'accord. Sur les formations, c'est une approche théorique, pratique, un mélange des deux. Tu parlais de philosophie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une démarche particulière dont tu voudrais parler ?
Non, par contre, c'est vrai qu'on amène à la fois de la théorie, mais la spécificité peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Il faudrait interroger les stagiaires, mais du coup, on essaye d'être piclérien dans notre démarche, voilà, de formation en tant que formateur. Donc, on essaye de s'ajuster au plus près des personnes qui sont là avec nous. Et puis, on travaille beaucoup avec des documents vidéo parce qu'il y a un élément dont j'ai pas encore parlé, mais qui est très important, qui est l'observation. C'est-à-dire que pour être avec un bébé que la professionnelle connaît pas un jeune enfant, c'est vraiment important de l'observer, alors de regarder, d'essayer de comprendre. Et du coup, on travaille beaucoup sur des documents vidéo avec les stagiaires et avec l'idée que du coup chacun puisse aussi parler de ses expériences. On essaye d'être à la fois dans quelque chose de dynamique, d'accueillant, d'être à l'écoute. Donc bien sûr il y a de la théorie, mais c'est pas des enseignements, hein. On est vraiment dans des dynamiques de formation le plus possible, qui ont des formes extrêmement variées en fonction des demandes, des structures. Donc c'est construit en amont avec des gens qui dont c'est le travail à l'association de construire avec les équipes quels sont leurs besoins, leurs demandes et au préalable. Okay.
Il y a des thèmes, par exemple, qui te sont plus chers que d'autres ?
Oui, donc il y a un thème, effectivement, qui m'intéresse particulièrement, c'est celui des paroles adressées à l'enfant, hein, parce que aussi, il rejoint d'autres approches qui me sont chères, comme la psychanalyse, par exemple, hein, et qui a des liens tout à fait importants pour moi, autour de comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on parle à un enfant et en quoi ça soutient effectivement son développement. Alors, évidemment, on va pas apprendre aux gens à parler aux enfants, c'est pas du tout l'idée, mais de prendre conscience de l'impact effectivement de nos mots et de ce qui va avec les mots, bien entendu. Et puis un autre thème qui m'intéresse beaucoup, c'est le travail avec les parents. Alors, qui n'était pas effectivement la pouponnière Amy Picler, toute son équipe travaillait peu avec les parents, mais elle, avant de fonder la pouponnière, elle était pédiatre de ville dans une pratique tout à fait singulière puisqu'elle allait au domicile des parents. Voilà.
Tu parlais de Bowlby tout à l'heure. Tu veux en dire deux mots, même si je sais que c'est un vaste sujet?
Ce qui me paraît important dans les liens avec Picler, c'est que vraiment elle s'est inspirée d'autres courants à l'époque et que la question effectivement de Bowlby et de l'attachement, alors elle est controversée à certains endroits, mais pour moi elle reste très fondamentale. Il y a des liens avec la psychanalyse, avec certains psychanalystes aujourd'hui qui se font et moi qui sont des appuis pour moi. Donc je pense vraiment que le petit enfant a besoin de s'attacher suffisamment, pour reprendre aussi ce que dit Winnicott, à un ou quelques adultes. Après, on est en train de réfléchir, et c'est aussi un thème qui m'intéresse beaucoup, à essayer de transmettre, de travailler nous déjà, et de transmettre aussi la différence vraiment profonde entre les liens parents-enfants et professionnels-enfants. Et je pense qu'il y a aussi vraiment des choses à travailler sur la question de l'attachement entre un professionnel et un enfant qui a travaillé, hein, en équipe, mais qui est à mon avis tout à fait nécessaire, mais si elle est encadrée. Hein.
Donc c'est la remise en question un petit peu, la nécessaire distance qu'on a beaucoup enseignée, tant aux éducateurs spécialisés qu'aux infirmières, ou peut-être aux...
Pas la remise en question, c'est-à-dire bien sûr distance avec ses propres éprouvés affectifs projectifs du professionnel. C'est-à-dire que bien entendu, il n'est pas question de confondre le lien affectif de passionnel du parent avec son enfant et qu'il y a besoin que les choses soient suffisamment retenues chez le professionnel. Mais il me semble que cette question de la distance a été étalée trop loin et que si ça devient quelque chose de froid entre un enfant et un professionnel, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on pourrait parler d'une certaine tendresse ou d'affection du professionnel qui peut, d'après moi, s'autoriser à. Mais je pense que c'est tout à fait fondamental de le travailler en équipe et que ça n'est possible que s'il y a une équipe qui permet aux professionnels de parler aussi de leurs émotions et de partager. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'un professionnel fasse ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. C'est important que ça soit encadré. Et si c'est suffisamment encadré par une organisation institutionnelle, par des réunions, par des endroits où on peut se lâcher, dire ce qu'on ressent, je pense que là, c'est possible qu'il y ait un engagement affectif professionnel. Mais c'est des questions compliquées. Hein, voilà.
Est-ce qu'il y a une chose que tu veux rajouter sur, ce que tu souhaites en présentant cette association ou...
Non, si ce n'est qu'on est très content d'être au Salon Primevert depuis plusieurs années parce qu'on fait des rencontres comme celle qui a lieu là maintenant et que ça c'est vraiment très plaisant et que je suis très contente de passer sur Radio Larzac parce que j'aime beaucoup Larzac, voilà. Merci Chloé.
Merci à toi.
Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. M'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi, je peux. j'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger.
On aura compris à l'écoute de Véronique, la motricité libre est l'un des trois fondements de la théorie éducative d'Émile Pickler. Il consiste à laisser libre cours à tous les mouvements spontanés de l'enfant sans les lui enseigner. Il se base sur l'idée que aussi bien les contraintes empêchant l'enfant de bouger que les incitations trop précoces à accomplir des gestes non maîtrisés par l'enfant perturbent son développement ou son autonomie. Émile Pickler s'appuyait sur des travaux qu'elle avait menés sur le développement moteur des jeunes enfants. Et c'est grâce à des observations d'enfants laissés libres dans leurs propres mouvements que le docteur Pickler acquit une connaissance très fine et complète du développement moteur de l'enfant. Le credo d'Émile Pickler était qu'il ne faut ni empêcher un enfant de se mouvoir, par exemple en le laissant des heures attaché dans un transat, ni le mettre dans une position qu'il ne sait pas encore prendre de lui-même, afin qu'il puisse atteindre les différents stades moteurs à son propre rythme, dans une grande sécurité corporelle et en éprouvant le sentiment de sa propre efficacité et en acquérant de ce fait une confiance dans ses capacités personnelles. Mais la pédagogie Pickler-Loxy ne se limite pas à la motricité libre. Émile Pickler a élaboré quatre principes directeurs qui guident l'action de chacun au sein de son établissement. Tout d'abord, elle donne de la valeur à l'activité autonome au sens large. Développer le goût pour l'activité autonome est essentiel pour que les enfants deviennent des adultes créatifs et responsables. Et ce, par l'expérimentation des situations. Pour elle, il est vraiment nécessaire que l'activité naisse de l'enfant lui-même, pour qu'il s'investisse dans une auto-induction, une activité spontanée qui renforce le résultat de cette activité. Les enfants sont donc totalement libres dans leurs mouvements, tout en étant protégés des dangers. L'adulte ne fait que placer l'enfant dans des situations qui correspondent à son âge. Il met du matériel à sa portée, respecte le rythme de ses acquisitions motrices et l'aide à prendre conscience de ses accomplissements. Le deuxième grand principe, c'est la valeur de la relation affective privilégiée et l'importance de la forme particulière qu'il lui convient de donner dans un cadre institutionnel. La nécessité d'une relation affective privilégiée et continue avec un adulte permanent nécessite une grande constance dans les attitudes éducatives et un engagement du personnel dans une relation réelle, mais consciemment contrôlée, dans laquelle l'adulte ne fait pas peser sur l'enfant sa propre affectivité et ses propres attentes. Les soins sont donc individualisés au possible et l'enfant n'est jamais seul. Il y a toujours un adulte à portée de vue ou de voix. La troisième grande valeur serait la nécessité de favoriser chez l'enfant la prise de conscience de lui-même et de son environnement et de partager l'importance de la verbalisation du vécu. par la régularité des événements dans le temps et la stabilité des situations dans l'espace, mais aussi lors des soins, on aide l'enfant à découvrir qui il est, ce qu'il fait, quel est son environnement, etc. On stimule beaucoup sa participation pour lui permettre de s'exprimer et de devenir un adulte autonome et responsable. On parle à l'enfant pour le prévenir de ce qui va se produire, pour lui expliquer ce que l'on est en train de faire. Ce partage verbal permet à l'enfant d'anticiper les événements et de pouvoir réagir. Cela renforce en fait l'interaction entre enfant et adulte. Enfin, la quatrième grande valeur, c'est l'importance d'un bon état de santé qui sous-tend, mais aussi résulte, de la bonne application des principes précédents. Chaque enfant bénéficie par exemple d'un régime individualisé concernant son alimentation, son cadre de vie et le déroulement de sa journée. On privilégie au maximum la vie au grand air. L'organisation de cette institution n'a donc rien à voir avec un établissement hospitalier, mais s'apparente plutôt à une maison à caractère familial.
Si j'ai comme tout le monde les yeux plus grands que le cœur, et le cœur qui se débande pour un soupçon de bonheur, si j'ai mal à mon enfance, j'ai l'avenir courageux, et pour un prix d'excellence, j'abandonne tous mes jeux. Mais je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée, comme un point dans une image, comme un petit personnage de santé. Parfois je me sais poète, Ronsard n'est pas mon cousin, je voudrais mourir pour être déjà dans tous les bouquins. Je supporte qu'on m'admire, ça fait du bien quelquefois, mais un oubli vient me dire qu'au fond je n'existe pas. Et je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée, comme un point dans une image, comme un petit personnage de santé. Pourtant je reprends courage et je me sens rossignol. Je voudrais que mon ramage et ma voix de flûte en sol puissent toucher tout le monde, faire partager mes joies. Mais j'apprends que sur les ondes, on n'a pas besoin de moi. Et je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée, comme un point dans une image, comme un petit personnage de sang. On se croit irremplaçable, mais on n'est finalement qu'un infime grain de sable entre les griffes du vent. Il arrive aussi qu'on gagne, mais on perd au prochain coup. On déplace des montagnes qui ne sont que des cailloux. Et on se sent dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée, comme un point dans une image, comme un petit personnage de sang. Je continuerai ma route, chez moi on ne s'arrête pas, et je laisserai sans doute quelque chose derrière moi. Alors le plus bel hommage, ça serait de me laisser me promener dans l'image. Je ne ferai que passer, et je serai provisoire, une fourmi dans l'histoire rassurée, un être humain dans la foule, dans la tendresse qui coule de sang paix, comme un point dans une image, comme un petit personnage de sang paix.
La parole est maintenant à Victorine. Alors Victorine, vous l'avez déjà entendu dans l'émission autour de la non-scolarisation. Victorine est également co-directrice des éditions de l'Instant Présent, des éditions qui ont maintenant une dizaine d'années, et que Victorine va nous présenter, donc une maison d'édition spéciale enfance, éducation. Ok. Donc, en tant que donc, directrice éditoriale des éditions d'Instant Présent, est-ce que tu peux nous parler de ton travail, nous dire comment tu rencontres les auteurs, comment tu les choisis ?
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Alors déjà, nous sommes 5 et nous fonctionnons vraiment de façon collégiale. C'est-à-dire lorsque l'une de nous déniche un projet ou lorsqu'il y a quelqu'un qui nous apporte un projet, on le soumet en comité de lecture à chacune de nous. Et c'est vraiment on cherche le consensus. C'est-à-dire si l'une de nous n'est pas favorable, eh ben on va le mettre de côté, quitte à y revenir plus tard. Mais on va vraiment vers un consensus lorsqu'on édite un livre. Ça, c'est important pour chacune de nous. Alors comment on fonctionne, comment on trouve les auteurs ? Il se trouve que chacune des 5, on a des réseaux, je dirais proche maternage ou proche apprentissage, et par ces réseaux, on entend par le bouche à oreille que quelqu'un aimerait publier un livre sur tel sujet, donc tiens, ça nous intéresse, on est titillé, on va contacter cette personne et voir avec elle ce que cette personne a envie de faire comme projet si ce n'est pas déjà fait. On a aussi des livres qui nous sont soumis, hein, qui nous sont envoyés régulièrement et de plus en plus parce qu'on commence à avoir une bonne notoriété, donc on a pas mal de réceptions de manuscrits, donc qui passent notre comité de lecture. Évidemment, on peut pas tout accepter. Hein, on est assez, on suit déjà notre charte éditoriale, puis après on a un planning de publication qui fait que notre temps n'étant pas extensible, on est obligé de faire des choix. On se centre donc sur les projets un peu coup de cœur pour chacune de nous déjà en priorité, et puis en essayant d'équilibrer un peu chacune de nos collections. On a cœur dans notre travail à faire notre travail d'éditeur, c'est-à-dire que un texte, même quasiment prêt à publier, on va le lire, on va apporter tous nos commentaires à l'auteur pour lui dire voilà, là c'est pas très clair, qu'est-ce que tu as voulu dire, est-ce que tu peux préciser ta pensée, est-ce que tu peux peut-être restructurer cette partie, en sachant qu'au final c'est l'auteur qui décide, et s'il a envie de laisser la partie telle qu'il est, c'est son choix. On est juste là pour l'accompagner, pour faire en sorte que son texte soit le plus clair possible et que sa pensée soit clairement comprise ensuite par le lecteur.
Donc on peut dire en fait que dans votre travail d'édition, vous appliquez en fait les valeurs et les méthodes en fait que vous défendez aussi au niveau de l'éducation.
Ah oui, on n'est pas dans le fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Hein. C'est important pour nous, pour nos enfants aussi, dans l'image qu'on donne à la maison et dans notre travail vis-à-vis de nos enfants. Et puis, c'est un ensemble de valeurs humaines qu'on partage toutes les 5 et auxquelles on est très attachés.
Ok. J'ai l'impression, en passant sur votre stand, là, j'ai vu votre collection, qu'il y a de plus en plus de livres qui tournent autour, en tout cas une grosse collection de livres qui tournent autour des apprentissages autonomes, de la non-scolarisation. C'est une direction que vous prenez, ça correspond à des valeurs antérieures, à un effet de mode,
c'est... Alors, c'est beaucoup de choses, mais c'est déjà à la base que sur les 5, 4 d'entre nous sont passés, si elles ne le sont plus aujourd'hui, mais sont passées par un stade de non-scolarisation. Sur ces 5, 2 seulement aujourd'hui continuent à instruire elles-mêmes leurs enfants en famille, dont je fais partie. Les 2 autres ont finalement rescolarisé pour des raisons qui leur sont propres, leurs enfants. Mais en tout cas, nous sommes toutes les 5 ultra sensibles sur les apprentissages de l'enfant. Et ça fait partie de notre réflexion en tant que mère, en priorité. Et forcément, ça en découle sur notre travail d'éditrice. Et puis, nos chemins ont fait qu'on a rencontré des gens extraordinaires, des auteurs extraordinaires qui ont eux-mêmes réfléchi. Alors, pour en citer quelques-uns, évidemment, John Holt, on ne l'a pas rencontré puisqu'il est décédé, mais on connaissait ses ouvrages en anglais et on trouvait dommage qu'il ne soit pas publié en français. Donc, ça a été vraiment important pour nous de faire en sorte que ces livres soient disponibles en français. On a également récemment rencontré Bernard Collot, qui est lui, je dirais probablement, en tout cas à ma connaissance, le seul enseignant du système scolaire classique qui est en faveur de ce qu'on appelle le unschooling, hein, qui est une façon d'accompagner ses enfants dans l'apprentissage sans aucun support formel. Donc il est vraiment, il a fait 40 ans d'enseignement dans une école qu'il appelle l'école du troisième type, où il a mis en place, alors c'est une école d'âge mixte, hein, où les enfants de 6 ans côtoient ceux de 8, ceux de 3, et il a mis en place une structure qui va faire que les enfants vont apprendre d'eux-mêmes. Il est juste juste là pour les aider s'ils ont des questions, favoriser leur curiosité, mais sans jamais imposer une directive. Et ça, dans le système scolaire, c'est extraordinaire ce qu'il a mis en place. Aujourd'hui, il est à la retraite et donc il, à travers ses écrits, ses livres, son blog qui est très alimenté avec des réflexions extraordinaires, il continue cette information sur ses 40 ans d'expérience. Et surtout, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs jeunes instituteurs qui ont repris le flambeau et qui poursuivent dans cette lignée avec l'envie de changer l'école d'aujourd'hui. Donc nos livres sur l'apprentissage, c'est aussi bien l'instruction en famille parce que ce sont des valeurs auxquelles on croit, et non pas parce qu'on est braqué contre l'école, mais parce qu'on considère que l'école d'aujourd'hui ne répond pas en termes d'éthique et de ce qu'on veut pour nos enfants. Mais découvrir que dans cette structure même, il y a des gens qui ont envie que les choses se passent différemment, c'est aussi extraordinaire. Et on n'est pas fermé, on a envie d'ouvrir à tout ce qui nous paraît être bon et important pour les enfants et pour l'avenir.
Donc Bernard Collot, il est l'auteur de...
Alors, il est l'auteur actuel de La pédagogie de la mouche et les chroniques, une chronique d'une école du troisième type, tome 1, qui sera suivi du tome 2 et du tome 3. Ces chroniques rassemblent vraiment toutes ces observations de 40 ans de pratique. Avec du concret, hein. C'est vraiment une description précise de comment il a aménagé son espace, comment ses enfants ont appris tel et tel concept, décrit jour au jour, jour après jour, comment ils en sont venus à comprendre que les insectes avaient X pattes et enfin 6 pattes ou 8 pattes. Il y a par exemple une anecdote où l'inspecteur est venu et il a vu sur un cahier qu'un enfant avait écrit que les insectes avaient 8 pattes et l'inspecteur a dit mais c'est pas possible qu'un enfant écrive ça, mais sauf que c'est dommage que l'inspecteur ait pas poursuivi. Parce que 3 pages plus loin, l'enfant de lui-même avait rectifié. Par l'observation, il s'était rendu compte que c'était pas possible. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est du témoignage pur et simple d'un enseignant avec 40 ans de pratique.
Tu veux nous en dire un peu plus sur John Holt ?
Ah, John Holt, pour moi, c'est un homme que j'aurais adoré rencontrer. Sa philosophie est très proche de ce que je fais avec mes enfants. C'est un homme extraordinaire et il a écrit des livres, beaucoup de livres. On en a actuellement publié deux, qui sont pour moi deux grandes facettes. Un positif sur les apprentissages autonomes, donc c'est vraiment la description, ce que je disais, sa recherche sur comment apprennent les enfants, émaillée de témoignages de parents et de familles. Et l'autre, apprendre sans l'école, beaucoup plus politique et critique sur le système scolaire. Et il y a un troisième en préparation qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année, qui pour moi c'est ma bible. Alors on sort un tout petit peu de l'apprentissage, puisque c'est son tout premier livre qu'il a écrit, Escape from Childhood, traduit en français, S'évader de l'enfance. Donc là, c'est l'enfant dans toute sa totalité, et comment il est aujourd'hui dans la société, comment on ne le respecte pas et comment cet enfant a droit au même respect que n'importe qui. C'est un livre fabuleux sur le droit de l'enfant que toute mère et père qui devient à la naissance de l'enfant devrait l'avoir dans la valise à la maternité, par exemple. Enfin, je veux dire, si on pouvait, ce serait extraordinaire.
Eh bien, merci Chloé pour cette découverte. Et pour conclure cette émission, je vais vous communiquer quelques dates. La première, c'est la tenue d'une formation pour adultes sur le thème « Autorité, quelle autorité ?». Ce stage pour adultes se tiendra les 1er et 2 novembre à Cornus, près de Millau. Il s'agira, comme d'habitude, de mise en situation et de pratiques ponctuées d'apports théoriques. On questionnera les théories, on va dire, liées à l'autorité, et on les mettra à l'épreuve ainsi que nos habitudes comportementales. Et entre les extrêmes autoritarisme et permissivité, on va, pied à pied, explorer les autres voies possibles. Notre objectif étant pour chacun d'expérimenter sans risque et de s'approprier des outils à réintégrer dans son quotidien. La deuxième date que j'ai envie de vous signaler, c'est un autre stage de formation pour adultes qui s'intitule « Du jeu au développement des pratiques coopératives » qui se tiendra pour sa part dans le Lot, près de Cajard, les 29 et 30 novembre. Enfin, je vous signale qu'en cette fin d'année, c'est la reprise des salons. Et donc vous pourrez retrouver Envie en jeu, venir nous rencontrer sur les stands, au salon Artemisia de Marseille, stand L8 du 24 au 26 octobre, au marché de Noël de Clermont-Lérault les 15 et 16 novembre, au salon Bio et Harmonie de Montpellier du 5 au 7 décembre, et au salon Asphodel de Pau du 12 au 14 décembre. Pour plus d'informations, plus de renseignements, suivre les actualités de l'association N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, sur notre page Facebook ou à nous appeler au 06 62 50 46 34. Merci encore pour avoir écouté l'émission d'aujourd'hui et à bientôt.